Radio Scoopy. Radio Scoopy.
Colonel Antoine Argout.
Jacques Chancel. Vous avez été l'un des plus jeunes colonels de l'armée française. Vous avez passionnément vécu pour vos idées, pour vos convictions. Vous avez risqué votre vie et vous avez même accordé de l'intérêt à la mort. Vous avez été l'artisan convaincu du putsch d'Alger et après l'échec, vous avez été l'un des chefs de l'OAS. À Munich, vous avez été enlevé par des barbouzes, ramené à Paris, condamné à la détention criminelle à perpétuité. En 1968, l'amnistie vous a légalement libéré, mais moralement emprisonné. Enfin, c'est ce que je pense. Vous ne regrettez rien, sinon d'avoir perdu. Et une question se pose, avez-vous perdu votre vie dans cette affaire?
Que ce soit sur le plan personnel, ou que ce soit sur le plan du français, je n'ai pas besoin de vous dire, de confirmer ce qui ressort de mon livre, c'est que personnellement, ou sur le plan du français, je n'ai absolument pas, je ne considère pas avoir en aucune manière perdu ma vie. Puisque la vie, à mon avis, doit être consacrée à défendre, à se battre, si besoin jusqu'au bout. Or le bout, c'est laisser sa vie pour les choses auxquelles on croit. Ce qui est d'ailleurs, soit dit en passant, de plus en plus rare à notre époque, soi-disant, de progrès.
Quel destin, quelle vie? Quelle vie que la vôtre, pouvait-on prévoir un tel enchaînement de circonstances, une telle trajectoire?
Ah ça, il est évident que, aussi bien à l'ambiance de ma famille, mon père était...
Je vais vous demander de ne pas trop remuer le pied droit.
Aussi bien à l'ambiance de ma famille quand j'étais garçon, mon père était officier de cavalerie au 11e chasseur à cheval à Vesoul, aussi bien mes études... que ce soit au lycée de Vesoul ou ensuite à l'école polytechnique, qui ne m'avait en aucune manière préparé à la vie que vous venez d'esquisser rapidement. Je peux dire que jusqu'en 40, je n'avais jamais imaginé une seconde que je puisse quitter la voie légale, la voie d'officier, qui par définition même, sauf circonstances absolument exceptionnelles, doit rester dans une stricte obéissance et dans une stricte discipline.
Il y a cette expression « soldat perdu ». Vous la reconnaissez comme vraie?
Ah ben, les soldats, l'expression « soldat perdu » a été inventée par nos adversaires et par les gaullistes. C'est-à-dire que eux aussi ont été des soldats perdus. Je rends hommage d'ailleurs à certains de ces soldats perdus. Ceux qui sont allés à Londres mus par uniquement un besoin de continuer à se battre pour leur pays et qui se sont vraiment battus sur les champs de bataille, eh ben, ceux-là, j'ai infiniment d'estime pour eux. Mais ils étaient des soldats perdus très exactement comme moi. Seulement, comme ils ont gagné, eh bien, ils ont été simplement des soldats récompensés et non pas des soldats perdus.
Vous avez pensé que le temps était venu de raconter cette tragédie, ce destin, et sur la couverture de votre livre... Je vois simplement à votre nom Antoine Argout, il n'y a pas le mot colonel. Or ce titre vous est souvent refusé, même dans la conversation, même dans les échanges et même dans les présentations.
Je vous dirais que je ne tiens en aucune manière à ce titre aujourd'hui. J'ai été colonel de l'armée française, je ne le regrette en aucune manière, mais qu'on m'appelle mon colonel ou qu'on m'appelle monsieur, ça m'est absolument égal et ça ne m'empêche pas de dormir. D'ailleurs, comme vous me l'esquissiez tout à l'heure, simplement c'est un signe, généralement c'est un signe sur les arrière-pensées de ceux qui s'adressent à moi. Il est évident, ce n'est pas toujours le cas, que ceux qui me disent mon colonel tiennent dans une certaine mesure à marquer certaines prises de position, plutôt favorables, et ceux qui m'appellent monsieur tiennent à marquer des distances et une désapprobation muette.
Je ne pense pas qu'on puisse enlever la dignité à un homme. On peut peut-être le battre, on peut le tuer, même au pire. Mais je pense que lui enlever ce qui a fait son titre, c'est quand même enlever un peu de sa dignité. Parce que on pourrait dire la même chose d'un léniniste, d'un marxiste, d'un maoïste. Pourquoi enlever ce qui a fait sa joie et sa raison de vivre?
Je suis sur ce point absolument d'accord avec vous. Seulement, évidemment, vous allez sans doute, ou plutôt vos auditeurs vont sans doute penser que je reprends mon cheval de combat. Mais enfin, un cheval de combat, ce n'est pas forcément désagréable. De Gaulle a passé sa vie, comme les communistes d'ailleurs souvent, comme le système communiste, à déshonorer ses adversaires. Les battre ne lui suffisait pas, il fallait encore les déshonorer. Et évidemment, il a vaincu le maréchal Pétain sur le plan politique, mais ça ne l'a pas suffi, il a voulu le juger, le condamner et le déshonorer. Donc c'est un système gaulliste, comme c'est d'ailleurs un système communiste, rappelez-vous les procès de Staliniens, les procès de Wyszynski, non seulement on condamnait la victime à mort, mais la mort ne leur suffisait pas, il fallait encore, pour des raisons d'ailleurs parfaitement compréhensibles, que le condamné soit déshonoré.
Vous accusez d'une manière définitive le général de Gaulle, mais avez-vous été son ami à un certain moment de votre vie, moins son admirateur?
Je n'ai jamais été ni son ami, ni son admirateur. Et j'ai failli non pas être gaulliste, parce qu'être gaulliste, c'est dans une certaine mesure adopter ses vues, son système, ses manières de faire. Mais j'ai failli rejoindre le général à Londres. En 1940, j'ignorais tout de lui. J'étais à l'école d'observateurs de Rabat et sur 70 élèves que nous étions, au vu des événements qui nous paraissaient absolument impensables, puisque nous étions à 2000 kilomètres de la capitale, 30 ou 35 d'entre nous ont résolu de rejoindre Londres, dans une intention absolument indiscutable, une intention de courage, de virilité, de souci de se battre. Bon, si je ne l'ai pas fait, c'est que, comme je l'ai expliqué d'ailleurs, si je ne l'ai pas fait à l'époque, c'est que chez moi, le sentiment de la discipline était encore supérieur à la volonté de se battre. Je ne dis pas que j'ai eu tort ou j'ai eu raison. C'est comme ça. J'ai oscillé pendant quelques jours. Et je me le surprochais même certains jours, parce que c'était tout de même la voie de la facilité à l'époque de rester. Et je me suis dit, est-ce que par hasard, tu n'habilles pas, sous le motif de la discipline, quelque chose au fond qui est de la lâcheté? Mais plus tard, très vite d'ailleurs, de Gaulle m'a, vraiment dans sa magnifique bonne volonté à mon égard, à l'époque c'était inconscient puisqu'il ne me connaissait pas, m'a enlevé ce souci, cette inquiétude, puisque dès Mersel Kébir et très rapidement ensuite à l'occasion de Dakar et à l'occasion de la Syrie, il m'a enlevé toute espèce de remords, parce que j'aurais peut-être été à Londres, mais je ne serais certainement pas resté avec lui.
Le titre de ce récit, c'est la décadence, l'imposture, la tragédie. Trois mots terribles, trois mots forts. La décadence, vous persistez à dire qu'elle est encore d'aujourd'hui. L'imposture, elle sera de toujours. Et la tragédie, votre vie est-elle une tragédie?
Ça, cette fois, je ne partage pas entièrement le sens que vous donnez à ces trois termes. D'abord, plutôt les adjectifs dont vous les avez accompagnés. La décadence, elle n'est pas encore de nos jours, elle est de plus en plus de nos jours. C'est-à-dire qu'elle a commencé à une époque très difficile à préciser. L'histoire ne peut pas se découper en tranches fixes comme les mathématiques. Mais tout ce qu'on peut dire, je suis absolument convaincu, et hélas, parce que je préférerais 100 fois avoir tort, hélas, on en voit des signes tous les jours. La France s'accélère dans cette voie, comme tout l'Occident, mais encore une fois, ce n'est pas une circonstance atténuante pour nous. L'imposture, elle n'est pas forcément de tous les temps. Je comprends très bien, je ne suis pas moi-même un enfant de cœur, je comprends très bien que quand on manie des masses et des nations, hier comme aujourd'hui, autant des Grecs, des Latins, autant de la bombe atomique, eh bien, les vertus chrétiennes cardinales peuvent pas être utilisées systématiquement, uniquement.
Mais il y a des limites. Autres, c'est faux.
Pardon ?
Aimez-vous les uns les autres, c'est une forme fausse.
Je ne dis pas que c'est faux, mais ça n'est pas absolument applicable. Parce que ce sont des lois statistiques, et des lois statistiques, il est certain que quoi qu'on fasse, ça sera les mauvais instincts qui prédomineront. Par conséquent, les gouvernements, à mon sens, au cours des siècles, ont toujours été obligés, dans une certaine mesure, d'utiliser des procédés qu'évidemment vous ne trouvez pas dans les canons de l'Église. Mais là comme partout, je ne suis pas manichéen, il n'y a pas le blanc et le noir.